le grand retour des apatrides anonymes sur choc.ca. C'est quoi les apatrides? C'est votre rendez-vous bimensuel sur Choc tous les deux jeudis en direct à 18h30 ou en balado sur choc.ca. On est aussi sur les ondes FM de Radio Victoria 107.9. Tous les deux jeudis en direct, c'est l'été, donc c'est pas exactement ça ces temps-ci, mais en tout cas, ça va reprendre son rythme régulier en septembre. 70 minutes d'actualité locale, nationale et internationale avec des nouveautés musicales. Simon à l'animation cette semaine, c'est à mon tour. Je vous offrirai quelques brèves et un agenda d'activités culturelles et militantes. Je suis en compagnie de Marie-Ève dans le studio principal à mes côtés. Salut Marie-Ève.
Salut Simon, bonsoir à tout le monde.
Ça va, oui.
Ah ouais.
D'accord, tu nous as préparé deux segments. Un plus tard dans l'émission sur l'agence frontalière Frontex principalement. Puis dans quelques minutes, on va aussi te retrouver pour un segment québécois-canadien, police, racisme, bavure.
Oui, c'est mon segment ACAB.
ACAB, all cats are beautiful. Mathieu, tu es à la régie pour l'instant. Salut Mathieu.
Hey, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir.
On va te retrouver plus tard avec deux segments, toi aussi. Donc, un premier international, Maroc, Iran, Myanmar, révolte et répression.
Oui.
C'est bien cela.
C'est bien
et
cela.
Un, plutôt plus vers la fin de l'émission, tu vas nous ramener ici avec des enjeux de politique, programme en immigration qui fonctionne toujours très bien.
Oui, au Québec-Canada, ça va. C'est le meilleur pays au monde.
Oui, le plus meilleur. Donc, bonjour Mathieu Marie-Ève, bonjour tout le monde qui nous écoute. C'est les Apatrides Anonymes, édition du 11 août 2022 sur choc.ca. De céder le crachoir à Marie-Ève, deux brèves canadiennes. Mais d'abord, une petite recommandation de lecture, une lettre ouverte de Vanessa Destiné, parue dans Le Devoir au mois de juillet, sur la fameuse décision du CRTC par rapport à l'utilisation du mot en N à Radio-Canada et sur le soi-disant consensus qu'il y aurait sur la question à l'intérieur même des murs de Radio-Canada et que Mme Destiné vient un peu défaire. Le texte s'intitule « Pour en finir avec le mot en haine » et je dirais que ça apporte un éclairage intéressant, différent sur ce débat qui est sûrement loin d'être fini. Alors, mes deux brèves, la première, Justin Trudeau a présenté des excuses nationales aux descendants et aux proches de la première unité du 2e bataillon de construction, une unité formée de soldats noirs durant la Première Guerre mondiale, unité qui était souvent affectée à la construction de structures, quais, routes, ponts, pistes d'atterrissage, etc., à être utilisées par les autres unités par la suite. Donc, cérémonie officielle début juillet en Nouvelle-Écosse. On a évoqué le racisme subi par les soldats noirs durant la guerre et le manque de reconnaissance pendant les 104 années qui ont suivi. On a rappelé qu'à tous les niveaux, durant le transport de troupes, les soins de santé, les hébergements, on pratiquait la ségrégation. Les soldats noirs étaient séparés des soldats blancs. Et lors des retours à la maison, ben, les honneurs, les commémorations, les décorations, c'était pratiquement tout réservé aux soldats blancs et presque rien pour les soldats noirs. Donc, sans parler des montées en grade, des allocations, etc. Trudeau a même dit que les discriminations raciales existaient encore aujourd'hui dans l'armée canadienne et que ce serait son prochain combat. Donc, on va lui souhaiter un meilleur succès que pour son combat contre la culture du viol dans l'armée canadienne.
C'est cela, oui.
Alors qu'il nommait, je pense, des généraux accusés d'agression sexuelle. Deuxième et dernière brève, toujours dans le registre des excuses d'Ottawa, non pas des excuses qui ont été offertes, mais qui sont demandées. On veut des excuses pour l'esclavage noir dans la colonie, dans le Dominion canadien. C'est demandé par un groupe d'universitaires qui affirme que, suite au vote de la Chambre des communes sur l'adoption du jour de l'émancipation qui vise à saluer l'abolition de l'esclavage en 1834 dans la plupart des colonies britanniques, la prochaine étape, pour être conséquente, ce serait des excuses officielles qui ont été refusées à plusieurs reprises jusqu'à maintenant. Peut-être juste mentionner au passage qu'au moment de l'abolition de l'esclavage en 1834, les esclaves sont principalement des Autochtones et des Noirs. Donc, en quoi ça sert des excuses officielles? Ben, on évoque le fait que c'est une réalité qui a été pas mal occultée au fil des siècles. Donc, beaucoup de Canadiens et Canadiennes pensent que l'esclavage, ça s'est juste passé aux États-Unis. On avance aussi que les conséquences de l'esclavage, de la ségrégation et de la discrimination à plusieurs niveaux, ben, ça se poursuit encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, imaginez, dans un des articles que j'ai lu récemment, j'ai appris qu'il y a eu une école racialement ségrégée à Lincolnville, Nouvelle-Écosse, jusqu'en 1983.
Oh, c'est l'histoire récente, ça.
C'est ça, c'est pas juste dans les tréfonds, dans le dernier grenier, là, c'est vraiment assez récent. Puis on parle aussi que ben, c'est un enjeu d'éducation, à savoir qu'avec des excuses officielles vient une reconnaissance qui rend les faits historiques plus difficiles à contester ou à ignorer, que ça devient plus facile de les enseigner, les diffuser, obtenir des fonds de recherche pour les étudier, par exemple. Marie-Ève, on quitte le passé pas si lointain, mais...
Oui. Ben oui, mais juste un petit commentaire. Je me demande, par exemple, sortant de la bouche de Justin Trudeau, qui passe son temps à s'excuser depuis...
Est-ce que c'est encore de la crédibilité?
C'est ce que je me demande, oui.
Quelconque valeur...
Petit questionnement.
Mais n'empêche que même si c'est lui le porte-parole du gouvernement, ça reste quand même des excuses officielles, mais je comprends ton point de vue.
Bref.
Alors, tous des enjeux plus actuels?
Ben, les enjeux raciaux continuent hein, encore ben aujourd'hui, ouais. Notamment le profilage. Donc, je vais vous parler de différents cas au Québec et en Ontario. En commençant quand même par une bonne nouvelle, entre guillemets, là, on se réjouit de ce qu'on peut, qui concerne en fait l'infâme police de Repentigny. Ah. Fin juillet, le tribunal des droits de la personne a donné gain de cause à François Ducas dans une affaire de profilage qui l'opposait au service de police de Repens. Mm-hmm. Petit rappel des faits, en 2018, alors que M. Ducas, qui est d'origine haïtienne, conduisait une BMW, deux policières l'interpellent et lui demandent de s'identifier, ce qu'il refuse de faire parce qu'il considère qu'il n'y a aucune raison de s'identifier. Il est donc menotté et arrêté. Et donc, à la suite de cette arrestation-là, M. Ducas a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Dans sa décision, la commission demandait à la ville de Repentigny et aux trois policiers impliqués de verser 35 000 $ pour dédommager M. Ducas. Mais bon, les décisions de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse n'étant pas contraignantes, comme on pouvait s'y attendre, la ville et son service de police se sont jamais conformés à la décision.
Ils ont juste ignoré la décision.
C'est cela, du gros déni. L'affaire a donc été ensuite portée au tribunal des droits de la personne, qui, là donc, c'est le sujet de ma nouvelle, a tranché en faveur de M. Ducas.
Ben oui.
Et là, la juge lui a octroyé des dommages moraux de 8 000 $. Bon, c'est beaucoup moins là, que les 35 000 de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
J'espère que le SPVR va pas contester ça, là.
Ben, c'est ça. C'est que dans le cas du tribunal des droits de la personne, le fait de ne pas se conformer à une décision constitue un outrage puis peut entraîner l'emprisonnement maximal d'un an et une amende maximale de 50 000 $.
Okay.
Et une décision peut être portée en appel, mais seulement si on considère que le juge a commis une erreur dans son jugement. Cette erreur-là doit être grave et avoir influencé le résultat du procès. Et donc, l'appel, c'est pas comme un nouveau procès, là. Tu sais, on peut pas... Il n'est pas question de refaire un appel en procès. Il est d'ailleurs très, très rare que des témoins ou des preuves y soient présentés. Puis quand ils le sont, ben ça doit être de nouveaux éléments de preuve. Tout ça pour dire que, pour répondre à ta question, que la ville de Repentigny puis les trois policiers ne pourront probablement pas se défiler cette fois-ci.
Ce serait de la perte de temps et de ressources.
Aussi. Là. Autre poursuite judiciaire contre un corps policier, mais cette fois-ci à Peel, en Ontario, et concernant une intervention qui a mené à la mort d'un jeune homme noir de 28 ans. C'est la famille de Jamal France-Afrique qui a décidé de poursuivre la police régionale de Peel pour négligence, mais la famille poursuit aussi les ambulanciers paramédicaux, la région de Peel et l'unité des enquêtes spéciales, l'équivalent du BEI ici. Dans la poursuite déposée, la famille allègue que les policiers habillés en civil ont fait preuve de négligence en s'identifiant pas correctement, puis en faisant, selon elle, usage de force excessive,
okay,
plutôt que de procéder à une arrestation plus sécuritaire. Elle espère aussi que le montant qui est réclamé, qui est de 101 millions de $, va dissuader les policiers, et je cite, d'utiliser la force excessive et des approches mal intentionnées qui ont des conséquences mortelles. En fait, Jamal Francik a été atteint par une balle le 7 janvier 2020 à Mississauga. à la suite d'une tentative d'arrestation là, par la police régionale de Peel. Il était assis au volant de son véhicule au moment où il était gravement blessé. Après avoir été atteint au travers du pare-brise, Jamal Francis, qui avait perdu le contrôle de son véhicule.
Il a été tiré pendant qu'il roulait.
Oui, dans la tête.
Et bah, okay.
Donc, il a percuté donc un immeuble. Il est mort des suites de ses blessures 2 jours plus tard après son arrivée à l'hôpital. À l'époque, la police menait une enquête sur le trafic de drogue et considérait Jamal Francis comme une personne dite d'intérêt, comme on dit. Il avait enfreint les conditions de sa liberté sous caution. Le véhicule dans lequel il se trouvait était recherché, puis la police le soupçonnait d'être en possession d'une arme à feu, ce qui a déjà d'ailleurs été confirmé plus tard, mais c'est pas une raison. Et pour revenir sur l'UES, là, l'unité des services spéciaux, à la fin de son enquête, c'était un an après les faits, c'est-à-dire en janvier de l'année 2021, l'UES a conclu qu'il n'y avait aucun motif pour déposer des accusations criminelles contre le policier qui a tiré sur Jamal. Parce que selon l'UES, le policier a agi par légitime défense parce que Jamal Francis roulait dans sa direction sans s'arrêter et qu'il avait donc, je cite le rapport de l'UES, des raisons de croire qu'il était déterminé à échapper à son arrestation et qu'il ne souciait pas de la santé et de la sécurité des agents à pied qui se trouvaient à proximité.
Ouais.
Fait que on va quand même suivre aussi le dossier là, de la poursuite là, de la famille
au Québec là, à Repentigny.
Non, de la poursuite de la famille contre le service de police de Peel et tout ça. Et je termine sur une note un peu plus légère quand même. Il n'y a pas que la police qui s'adonne au profilage racial, les différents services et compagnies de sécurité aussi, hein, comme on peut
On le voit même en santé, donc les apprentis policiers, on s'imagine que oui.
C'est ça. Il y a Célina César-Chavanès, qui est une ancienne députée du gouvernement fédéral, qui considère en effet en avoir fait les frais de la part du service de protection parlementaire juin à Ottawa. Alors qu'elle tentait d'accéder au bâtiment en portant son épinglette parlementaire. Cette épinglette-là, ben, c'est porté par les députés actuels et anciens. Pis c'est censé leur permettre d'accéder à n'importe quel bâtiment de l'enceinte parlementaire sans que eux-mêmes soient fouillés ou que leur sac ou tout ça.
C'est comme un badge, là.
Genre. Et puis, mais là, l'ex-députée affirme que les services de sécurité lui ont demandé où est-ce qu'elle avait obtenu et même où est-ce qu'elle avait acheté sa broche.
Ben oui.
Et ont essayé de lui procéder à une fouille. Et tout ça alors que, quelques secondes plus tard, l'ancienne députée néo-démocrate Peggy Nash, elle, a pu franchir la sécurité sans aucun problème et sans aucune question. C'est pas la première fois, en plus, que le service de sécurité est interpellé de cette façon-là pour le profilage racial sur la colline parlementaire. En 2019, le service avait dû s'excuser après un incident lors d'un événement de lobbying appelé « Black Voices on the Hill » où plusieurs jeunes participantes...
pas des Noirs?
Oui, ont déclaré avoir été qualifiés de, et je cite, « personne à la peau foncée » et invité à quitter une cafétéria parlementaire par un agent de sécurité. J'ajoute un autre exemple. Dans son discours d'adieu en 2021, Mumilak Kakak, qui a été député néo-démocrate au Nunavut, a déclaré qu'elle ne se sentait pas en sécurité sur la colline. Elle a même décrit avoir été pourchassée dans les couloirs et soumise à du profilage racial par des membres du service de protection parlementaire. Alors, voilà, c'est beau à la diversité parlementaire.
Bon, oui, jusque sur la colline, le haut lieu de notre démocratie.
Ouais.
Merci, Marie-Ève, pour ces exemples du plus meilleur pays
du monde.
Fait qu'on prend une petite pause, on revient dans quelques instants, on va retrouver Mathieu un peu plus tard. Le C'est pas Mathieu, c'est toujours moi. Mathieu, on le retrouve dans 4 minutes exactement si j'arrive à me discipliner. Donc, on est toujours aux Apatrides Anonymes sur choc.ca et on va passer en musique aussi tantôt. Donc, quelques brèves latino-américaines. D'abord, suggestion d'articles en ligne sur pivot.québec. Le titre, « Les minières canadiennes face à la gauche en Colombie ». On le sait, nouveau et tout premier gouvernement de gauche en Colombie de Gustavo Petro, qui en principe devrait être moins complaisant que les régimes précédents. Et là, comme vice-présidente, l'afro-colombienne et environnementaliste Francia Marquez. Est-ce que c'est la fin du buffet à volonté pour les entreprises des pays riches dans les terres traditionnelles autochtones de la Colombie? Les prochains mois pourraient nous donner une idée de la dynamique à venir pour les prochaines années. Ce qui a été promis, c'est une organisation beaucoup plus décentralisée du territoire, l'octroi d'un droit de veto aux communautés locales, dont beaucoup de communautés autochtones justement. Et on nous disait qu'aucun nouveau projet d'exploitation pétrolière ni de mine à ciel ouvert ne serait approuvé. Donc, si seulement ces promesses-là sont tenues, ce sera déjà une rupture assez nette avec ce qu'on a vu dans le dernier 400 ans, je dirais. Donc, pour lire l'article complet, les minières canadiennes face à la gauche en Colombie, c'est sur pivot.québec. Maintenant, le Panama, pays voisin de la Colombie, où les relations entre la population et le gouvernement sont pas tout à fait au beau fixe actuellement. À moins que je me trompe, on assiste au plus important mouvement de contestation qu'a connu le Panama depuis des décennies. Inflation, coût de la vie qui monte en flèche, l'essence, entre autres, presque 50% d'augmentation en 6 mois, tout ça pour une population générale assez défavorisée et avec un pouvoir d'achat à la base pas très élevé. Il y a des manifestations devant le Parlement, les routes les plus importantes sont bloquées, dont la fameuse route panaméricaine qui joint justement la Colombie et le pays qui est au sud de Costa Rica, peut-être, je ne suis pas certain. Des affrontements entre les étudiants et la police pour mettre de la pression pour que le gouvernement de Laurentino Cortizo s'attaque sérieusement au problème en décrétant des gels de prix sur plusieurs produits, dont énergie, alimentation, médicaments, entre autres. Le mouvement de contestation a commencé début juillet quand les enseignants de la région centrale du Veracruz se sont mis en grève. C'est devenu une grève nationale des enseignants et ensuite se sont joints à la protestation plein d'autres groupes de la société, plein de syndicats, des étudiants. Il y a eu des tentatives de négociation entre le gouvernement et des représentants syndicaux autochtones et de la société civile. Il y a eu quelques mesures annoncées, mais elles sont jugées insuffisantes. Donc, les manifestations, les moyens de pression, ça se poursuit encore aujourd'hui. On en profite en même temps dans ce grand mouvement pour dénoncer la corruption endémique au Panama, dont le gouvernement actuel n'est pas exactement exonéré de tout soupçon. Parmi les revendications, un meilleur financement des services publics, la réparation des infrastructures qui tombent en ruine, sauf le canal de Panama, évidemment, plus d'autonomie pour les communautés autochtones, dont l'exemple de la Colombie, dont le gouvernement Petro entend aller dans cette direction. Ça va être assez inspirant pour les voisins de la Colombie, j'ai l'impression. Et autre revendication du peuple panaméen, on exige la fermeture des 4 bases militaires américaines qui sont toujours en opération sur le territoire panaméen. Bref, à suivre, hier, le mercredi 10 août, première journée nationale de grève appelée par une coalition de syndicats. Je ne sais pas si c'est le prélude à une grève nationale de plusieurs mois comme on a vu justement en Colombie. Donc voilà pour le Panama. C'est sûr qu'on vous parle de ce pays-là dans les prochains mois et peut-être ça va faire boule de neige dans d'autres pays de la région, de la sous-région. Donc on va aller en musique. Au retour, Mathieu, que je vous promets depuis tantôt, pas qu'on t'aime pas, Marie-Ève. on va poursuivre nos nouvelles internationales, Maghreb, Asie avec lui. On va d'abord entendre la pièce Rodeo, sortie en avril 2022 du groupe 4SFX. Le texte de la pièce, ça tombe bien, c'est un genre de manifeste anti-establishment, anti-corruption, dont le message pourrait se résumer à « Réveillez-vous, gang de zombies ». 4SFX, c'est un quatuor, 2 hommes, 2 femmes qui viennent du pays de Galles. Certains membres sont d'origine italienne, ils sont maintenant basés à Londres. Leurs textes font souvent référence aux mouvements syndicaux et aux luttes sociales, notamment celles des années 80 dans les milieux ouvriers et miniers des South Wales. Ils ont aussi une approche très queer, militante à travers tout ça, donc ça donne un résultat intéressant, à la fois au niveau des paroles que des musiques un peu Riot Girls. Donc la pièce Rodeo de l'album du même nom du groupe anglais 4SFX aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. We'll be right back. Sur choc.ca, je suis en compagnie de Mathieu. J'avais comme au menu Iran, Maroc, Myanmar, c'est bien ça?
Oui, j'ai mis ça un peu dans le désordre pour te mêler.
Tu commences avec Myanmar.
Non, avec le Maroc. Okay, bien essayé. Bon. Mais j'avais une petite phrase d'introduction. Je voulais dire que dans un contexte de répression généralisée actuellement un peu partout, ouais, avec en Grèce un énorme scandale d'utilisation de le logiciel espion contre des journalistes et des élus de l'opposition, mm-hmm, actuellement. Et même ici, la GRC,
ben oui,
qui est
obligée, hein,
de reconnaître cette semaine avoir utilisé un type de logiciel espion, et on peut vous le dire lequel. Mais on va parler de répression un petit peu plus forte.
Ils disent que c'est pas Pegasus, mais c'est une technologie identique à Pegasus. Donc finalement.
C'est ça. C'est ça que je veux dire. On peut vous le dire lequel, mais on s'en doute un peu. En Grèce, ça s'appelle Predator. C'est prédateur. Là.
Fait que, c'est clair.
Une compagnie israélienne, ça aussi, j'imagine. Fait que, mais là, je vais vous parler de répression plus brutale et plus systémique.
Parfait.
Human Rights Watch vient de sortir un rapport inédit sur le Maroc qui s'appelle Un manuel des techniques de répression au Maroc, ou comment, depuis une dizaine d'années, le gouvernement marocain réprime les opposants et les journalistes critiques. Téléphone mis sous surveillance, caméra cachée dans les logements, agression dans la rue, peine de prison. Cela inclut des procès pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qu'on leur reproche, c'est-à-dire des faux procès d'agression sexuelle ou de détournement de fonds. Et évidemment, la surveillance par toutes sortes de logiciels espions dans les téléphones et autres technologies. Et les opposants subissent aussi des campagnes de harcèlement dans les médias. Les médias pro-régime sortent des fausses informations sur leur vie privée. C'est okay, vraiment
du salissage.
Un vrai manuel, là, comme dit par Human Rights Watch. Toutes ces techniques de répression ont un point commun, c'est que l'État peut s'en laver les mains à tout moment en disant, ben c'est la justice qui est indépendante, c'est des sites web privés qui sortent l'information, c'est des médias, c'est la police qui fait pas son travail. Donc, une espèce de façon aussi de pas être directement dans la répression. D'après l'ONG, le Maroc est le premier pays à utiliser autant de techniques de répression en même temps. Aucune de ces méthodes n'a été inventée par le Maroc, mais le fait qu'il les systématise comme ça, qu'il les utilise d'une manière aussi dense contre un petit groupe d'opposants, fait que c'est devenu le moyen que l'État a trouvé pour gérer l'opposition, tout en continuant à clamer être un État qui respecte la liberté d'expression, les droits humains, etc., etc.
Le roi est directement impliqué là-dedans. Marie fait des signes de blablabla, là, mais effectivement.
Le roi, oui, j'imagine, mais disons qu'il y a pas mal de monde qui travaille en dessous de lui.
Oui.
2021 est une année de répression sans précédent au Maroc. En un an, 170 journalistes et militants ont été arrêtés ou poursuivis, et plus de 144 manifestations publiques ont été interdites sous prétexte d'état d'urgence sanitaire et tout et tout. Sinon, petite nouvelle aussi reliée à ça au Maroc, la mort récente de l'un des plus hauts responsables des centres de détention secrets destinés à la torture au Maroc a été l'occasion pour ces victimes d'apporter leur témoignage concernant les graves violations des droits humains et autres abus dont elles ont été victimes. Parce que là, je vous parlais de harcèlement et tout ça, mais il y a aussi de la torture dans les prisons. On parle de menaces, passage à tabac, insultes, mauvais traitements, privation totale de soins et de contact avec le monde extérieur. Le comité de coordination des familles des disparus et des victimes de disparitions forcées au Maroc a souligné que Kadour Al-Youssoufi, le tortionnaire en question, a supervisé les interrogatoires et la torture de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants appartenant aux différents mouvements militants au Maroc. Le comité a estimé que la mort d'Al-Youssouf, sans connaître la vérité, sans tenir les tortionnaires pour responsables et sans préserver la mémoire, prouve que le dossier des graves violations des droits humains est toujours d'actualité au Maroc. Et en terminant sur le Maroc, il y a un mot-clic actuellement qui s'appelle « Dégage Aknanouche ». Des centaines de milliers d'internautes marocains réclament le départ du premier ministre Aziz Aknanouche. Homme d'affaires ayant fait fortune dans la distribution de carburant, qui est accusé de profiter de la flambée des prix à la pompe. Donc, on tourne un peu autour des mêmes sujets.
Je ne sais pas si c'était relié peut-être à des entreprises de technologie de sécurité ou des trucs comme ça, ou incarcérant.
Peut-être, mais là, c'est surtout dans les carburants. Les gens demandent de réduire les prix de l'essence et du gaz. Je fais le lien un petit peu avec ce que tu parlais pour le Panama.
Ouais.
Et M. Aknanouche, actionnaire principal d'Afrikia, sa fortune est estimée à 2 milliards de dollars quand même. Et peut-être noter que depuis que le marché a été libéralisé au niveau des énergies, beaucoup de gens réclament le plafonnement des marges exorbitantes de profit des distributeurs de carburant. Il y a même eu un jugement du Conseil marocain de la concurrence qui a condamné en 2020 Afrika de M. Aknanouche, Total et Shell, qu'on connaît bien, à des amendes, mais qui n'ont jamais été appliquées. Fait que ça pour dire que c'est un contexte comme ça au Maroc, comme ailleurs, de répression et aussi de crise économique.
Oui, puis de monopole, quasiment des oligarques. Là, qui.
Aussi, et des politiciens, et dans le cas du Maroc, le royaume du Maroc, le roi et la famille royale. En Iran, Simon, le cinéaste opposant iranien Jafar Panahi a été condamné à 6 mois de prison. C'est un verdict qui date de 2010, mais qui applique à partir de maintenant. C'est le réalisateur du film Le Cercle, Trois visages, Taxi Téhéran, vraiment primé un peu partout dans le monde.
Un grand réalisateur. Hein?
Oui, iranien, exactement. Monsieur Panahi avait été arrêté puis condamné en 2010 à 6 ans de prison et 20 ans d'interdiction de réaliser ou d'écrire des films, de voyager ou même de s'exprimer dans les médias. Il avait été condamné pour propagande contre le régime après avoir soutenu le mouvement de protestation de 2009 contre la réélection de notre ami Mahmoud Ahmadinejad à l'époque, président ultra-conservateur.
Grand démocrate aussi.
Ouais. Donc, il vivait sous un régime de liberté conditionnelle, pouvait être évoqué, et là, ils ont décidé de le faire. C'est une vieille condamnation qui est ressortie. Fait que là, 6 ans de prison pour lui. Les cinéastes, dont lui, avaient dénoncé en mai, dans une lettre ouverte, l'arrestation de plusieurs de leurs collègues par les autorités et la répression contre les manifestants en Iran. Actuellement, ces vagues d'exécution d'ampleur inédite depuis des années, arrestation massive de détracteurs de la République islamique. La première année de présidence d'Ibrahim Raisi a été marquée par une répression tout azimut, selon des militants iraniens des droits humains, mais selon ce que je vous ai raconté, ce que je vais vous raconter dans les prochaines secondes.
Okay.
Donc, l'ancien chef et conservateur de l'autorité judiciaire, le président actuel, confirme ainsi les craintes suscitées par son accession au pouvoir en août 2021. La répression actuelle est intimement liée à la multiplication des manifestations. Le régime a tiré les leçons de la contestation en 2017 et en 2019. Et bien que les motivations des manifestations soient d'abord socio-économiques en général, elles deviennent rapidement politiques et visent l'ensemble du régime. Il y a aussi un autre point, il y a la répression, mais aussi il y a l'augmentation du nombre d'exécutions en Iran. C'est spectaculaire.
C'était déjà un des pays,
exactement.
Autant que la Chine, mais dans le top 5, là, je pense.
Deuxième après la Chine, exactement, okay. Simon. Elles ont doublé sur le premier trimestre par rapport à la même période en 2021. On en compte 316 pendaisons en 2022 actuellement, rien de moins. Le régime a de plus procédé en juillet à sa première exécution publique depuis plus de 2 ans. Donc, on laisse les gens pendus là, sur la place du village. L'Iran a également repris l'amputation des doigts des condamnés pour vol. Les autorités utilisent ces vagues d'exécution pour installer la peur au sein de la société à des fins de dissuasion de toute manifestation anti-gouvernementale, souligne un défenseur des droits humains. Des parents se battant pour la libération des victimes de la répression de 2009 se sont également retrouvés derrière les barreaux. Les représentants de la communauté Baha'i, plus importante minorité religieuse non musulmane en Iran, dénoncent également une série d'arrestations depuis 2 mois. Et une 20aine de ressortissants de pays occidentaux, parmi lesquels beaucoup de binationaux, restent toujours détenus ou bloqués actuellement dans le pays. Fait que, ben, il me reste 1 minute. Écoute, je voulais vous parler de la
Myanmar. Du Myanmar, ben oui. Est-ce que tu as le temps de...
Ben, j'ai pas le temps de parler de tout ce que j'avais préparé, mais écoute, je peux peut-être dire que ça va pas très bien.
Non.
Qu'il y a eu il y a eu 4 prisonniers exécutés, c'est la première fois depuis des décennies, que l'état d'urgence a été prolongé et que les rapports de l'ONU se multiplient sur des crimes de masse, des crimes contre l'humanité avec la répression qui est de plus en plus forte, au Myanmar après plus qu'un an et demi de coup d'État, de reprise du pouvoir par la junte. On parle de 2000 civils tués et plus de 15 000 arrêtés depuis le coup d'État. Donc, voilà. Fait que je pourrais en parler plus une prochaine fois.
Ben oui, tu pourrais développer, en profiter, peut-être même juste parler du Myanmar, parce qu'il va se passer tout plein de choses d'ici ce temps-là.
Mm-hmm.
Nous, on prend une petite pause musicale. On poursuit dans l'international après, avec moi-même et Marie-Ève qui revient à mes côtés aux Apatrides Anonymes. Tranquillement vers l'Europe, dont Marie-Ève nous parle dans 3-4 minutes. J'en profite pour faire une mise à jour de ce qui se passe. En fait, on va retourner un peu vers le Maroc, l'un des points chauds frontaliers de la planète, Maroc-Espagne. Mathieu, tu nous parlais de répression au Maroc tantôt. Attendez de voir ça, c'est pas fini. Retour sur la journée funeste du 24 juin à Melilla. Melilla qui permet de passer du territoire marocain au territoire espagnol dans une enclave espagnole qui est en Afrique. Bref, allez réécouter notre émission du 14 juillet pour le récit complet des événements. Dans la journée du 24 juin, 23 migrants décédés, pour la plupart des personnes du Darfour, des Soudanais, des Sud-Soudanais principalement, en plus de centaines de blessés. Il y a eu aussi beaucoup de policiers frontaliers qui ont été blessés. On craignait que les corps des migrants soient enterrés avant même qu'il y ait enquête. Ben, Faux Migrants rapporte que la branche marocaine du Conseil national des droits de l'homme aurait eu accès à tous les corps des migrants décédés avant qu'ils soient enterrés. Aux dernières nouvelles, les autopsies n'étaient pas terminées, mais on privilégiait la thèse de l'asphyxie mécanique, puisque dans un mouvement de foule vers des passages frontaliers dont le seul qui était ouvert était très étroit et avec un tourniquet, ben, la foule s'est comme compressée et écrasée à la fois sur des clôtures et sur elle-même. Les premiers rapports d'enquête blanchissent complètement les forces de l'ordre marocaines, donc à quel point est-ce que cette enquête est fiable, plus que des photos et des vidéos qui contredisent cette version-là, qui montrent des amoncellements de cadavres et des policiers frappant des migrants au sol, ce qui avait été largement dénoncé, dont par l'ONU, entre autres, qui a réclamé à Rabat et à Madrid une reddition de compte complète, qui souhaite rouvrir l'enquête et, en plus, se pencher sur la répression des migrants avant le 24 juin, à la fois par le Maroc et l'Espagne. Il faut savoir que cette révolte des migrants le 24 juin à Melilla, ça faisait suite à plusieurs raids policiers sur des camps temporaires autour des enclaves espagnoles. Malgré tout, le gouvernement marocain a poursuivi en justice 62 des migrants qui ont survécu à cette journée-là pour, entre autres, participation criminelle pour faciliter les entrées illégales. Tu sais, c'est des migrants eux-mêmes, mais bon, on apprenait cette semaine que 33 d'entre eux ont été condamnés à 11 mois ferme de prison. Ça reste une histoire à suivre, surtout pour le réexamen par l'ONU de l'enquête entourant le déroulement de cette journée du 24 juin, enquête qui pour l'instant semblait assez expéditive et complaisante. On reste dans la forteresse Europe. Marie-Ève, tu nous parles principalement de Frontex, la super agence frontalière européenne, de plus en plus armée, technologisée et soupçonnée de toutes sortes de pratiques douteuses.
Oui, oui, infâme, je dirais même, agence.
Tu pèses pas tes mots.
Non, je ne pèse pas mes mots parce que là, en plus, elle se retrouve encore une fois dans la mire non seulement d'ONG, mais cette fois-ci en plus d'un organe officiel de l'Union européenne. C'est un rapport accablant qui est encore confidentiel, mais qui a été consulté par plusieurs médias européens. Donc, un rapport de l'Office européen de la lutte contre la fraude, l'OLAF, qui démontre que l'ancienne direction de Frontex avait connaissance des renvois illégaux de migrants en Grèce vers la Turquie. Frontex aurait même cofinancé certains de ces refoulements-là, ce qu'on dit les pushbacks, de ces refoulements en mer. On parle entre autres d'un incident survenu le 5 août 2020 où les gardes-côtes grecs ont remorqué un canot pneumatique avec 30 personnes migrantes à bord, non vers la Grèce, mais vers la Turquie. Un avion de Frontex qui patrouillait a filmé la scène, mais au lieu de s'adresser aux autorités grecques, Frontex a arrêté de faire patrouiller des avions au-dessus de la mer Égée sous prétexte qu'elle en avait besoin ailleurs.
En fait, pour ne pas filmer, ne pas...
Exact, ouais, exact. C'est selon des collaborateurs de Frontex cités par les enquêteurs, Fabrice Leguéry, qui a démissionné en avril dernier, Mathieu nous en avait parlé, aurait sciemment fermé les yeux sur ces actes-là. Les collaborateurs ont d'ailleurs trouvé une note écrite évoquant le retrait des avions de surveillance, et je cite, « pour ne pas être témoin ». De ce qui se passait en mer.
Ah ben.
Et plus grave encore, mais comme je disais d'entrée de jeu, Frontex aurait cofinancé certains des refoulements. Olaf rapporte qu'au moins 6 bateaux grecs cofinancés par l'agence européenne auraient été impliqués dans plus d'une dizaine de pushbacks entre avril et décembre 2020, ce que l'ancien directeur a toujours rejeté. Je rappelle que durant les sept ans passés à la tête de Frontex, Leguéry a beaucoup, comme tu le disais, s'est renforcé l'agence, dont les effectifs, dont les agents sont désormais aussi armés, doivent atteindre jusqu'à 10 000 gardes-côtes et gardes-frontières d'ici 2027. Et donc, la Grèce, de son côté, ben, elle a toujours démenti le tout refoulement illégal là, à ses frontières. Le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachi, a réagi en affirmant qu'il n'avait lu que le résumé du rapport, qui, selon lui, et je cite, « ne blâme pas directement la Grèce », ajoutant « nous avons le droit de protéger nos frontières ».
Je ne sais pas il y a combien de milliers de témoignages et de centaines de vidéos, mais bon, il a lu les conclusions du rapport.
Et donc, toujours concernant Frontex, mais maintenant, avec Human Rights Watch et Border Forensics, qui ont analysé les données de vol de son drone, du drone de Frontex, là, qui est déployé depuis mai 2021 en Méditerranée centrale. Leur conclusion est sans appel. Le drone joue un rôle crucial dans la détection des embarcations qui se retrouvent proches des côtes libyennes. Or, en informant les côtes, les gardes-côtes libyens des données recueillies par le drone, Frontex facilite, sans s'y opposer évidemment, les refoulements. Et c'est que les hélicoptères libyens, ils patrouillent pas cette zone-là de la Méditerranée et dépendent donc complètement des drones et aéronefs de Frontex pour la surveillance aérienne. Et bon, évidemment, plus Frontex détecte tôt l'embarcation, plus ça laisse de temps aux Libyens pour les intercepter. C'est ça. Et donc, pour vous expliquer un peu la procédure de Frontex, chaque fois qu'un avion ou un drone repère un bateau en détresse, Frontex alerte immédiatement les centres de coordination de sauvetage maritime concernés dans la région. Donc là, on parle de l'Italie, Malte, la Tunisie et la Libye. Lorsque des vies sont en jeu, les données partagées pour géocaliser l'embarcation, vont rassembler tous les éléments disponibles. C'est-à-dire, ça peut être des appels de détresse, mais aussi des courriels et des messages des personnes qui sont à bord. Et c'est justement la communication de ces informations-là aux autorités libyennes que les ONG dénoncent, étant donné l'accumulation de preuves de traitements inhumains et dégradants subis par les personnes exilées dans le pays. On vous en a parlé souvent, détention
arbitraire,
torture, viol. Et Human Rights Watch et Border Forensics présentent aussi ben, un exemple concret là, de surveillance aérienne problématique de la part de Frontex. Qui date d'environ un an, c'est le 30 juillet 2021. Il y a au moins 3 embarcations totalisant 228 personnes qui ont été interceptées et ramenées en Libye. Parmi ces embarcations-là, il y a une d'elles qui se trouvait dans les eaux internationales, en plein cœur de la zone maltaise de recherche et de sauvetage. Okay. Or, les données de vol du drone de Frontex indique qu'il surveillait la trajectoire du bateau, mais Frontex a jamais informé le navire de sauvetage Sea-Watch 3 qui était à proximité, selon les ONG. Donc, et cette information-là est aussi corroborée par justement l'ONG allemande Sea-Watch. À cette date-là, son navire, le Sea-Watch 3, et son avion Seabird ont assisté à la scène des gardes-côtes libyens qui repoussaient le canot vers le sol libyen. Un acte qui est contraire au droit international parce que le canot se trouvait dans la zone internationale. Selon Sea-Watch, avant l'interception du bateau, il y a un drone de Frontex qui s'était rendu à plusieurs reprises sur les lieux et à proximité du bateau en détresse. Donc, l'ONG présume que Frontex était impliqué dans cette opération-là. Et d'ailleurs, en avril 2022, elle a déposé un recours en justice auprès du tribunal de première instance de l'Union européenne spécifiquement sur ce cas-là. Mais c'est pas la première fois non plus Frontex que le rôle de Frontex dans les interceptions libyennes est pointé du doigt. En avril dernier aussi, également, le groupement de journalistes Lighthouse Reports avait passé au crible 56 interventions des gardes-côtes libyens en recoupant les données des traceurs de vol, de navigation, mais aussi les témoignages et les enregistrements radio. Puis dans 20 des cas, donc sur 56, ils ont pu prouver qu'un avion Frontex volait dans le voisinage immédiat et pouvait affirmer avec une forte probabilité qu'il était conscient du bateau. Qui était conscient du bateau en détresse. Puis dans une dizaine de cas, Frontex était même le premier acteur dans la détection des embarcations. Donc, Lighthouse Report concluait que Frontex jouait un rôle direct dans les interceptions en mer. Je termine avec un chiffre. Rien qu'en 2021, 32 425 personnes ont été interceptées par les gardes-côtes libyens en mer et ramenées à terre. Ça, ce sont les chiffres du dernier rapport annuel de la branche libyenne de l'OIM, l'Organisation internationale pour l'immigration. Comme je le disais, ces personnes-là souvent sont ensuite enfermées arbitrairement. Et il y a même une nouvelle milice appelée Autorité de soutien à la stabilité et créée depuis un an et demi qui est impliquée à la fois dans les interceptions en mer et dans les exactions qui sont commises dans les prisons libyennes.
Ça, c'est une milice créée par Frontex, par Libyenne.
En Libyenne. Okay.
Ouais. Il semble, comme tu dis, qu'il y a collaboration assez directe entre Frontex et les autorités libyennes, ouais. Et que les protocoles, finalement, ne sont pas respectés. Ce qu'on fait avec les drones, on s'en sert pour remettre à peu près toutes les embarcations, les pushbacks technologiques, je ne sais pas comment appeler ça.
Mais... Frontex disent que c'est pour sauver des vies, puis que les informations sont partagées avec les autorités compétentes, tu sais...
Mais les autorités compétentes s'embêtent les autorités libyennes dans bien des cas, si j'ai bien compris.
Oui, mais il y a une autorité libyenne de surveillance de la navigation qui est reconnue par l'Union européenne, sauf okay. que, tu sais, bon, que l'Union européenne a elle-même financée d'ailleurs, mais bon, je veux dire, reste qu'une fois rendu en Libye...
Ben, c'est retour à la case départ et dans des conditions horribles.
Et des fois, c'est un retour sans retour, oui.
Exactement, comme on en a souvent parlé. On fait une petite pause musicale qui n'a absolument aucun rapport avec le contenu qu'on vient d'aborder. C'est Navet Confie. Ta voiture, on est toujours sur choc.ca. écoutait Ta voiture de navet confie aux apatrides anonymes. C'est sur son nouvel album chaleureusement intitulé Bonjour, qui est en cinquième position du palmarès francophone de Choc cette semaine. On retrouve Mathieu dans un tout petit instant pour des enjeux immigration Québec-Canada, mais je voulais voler une minute pour vous parler de la Saskatchewan. La province, c'est rare qu'on parle de la Saskatchewan, mais elle se distingue, c'est la province la plus meurtrière pour les personnes autochtones. Statistique Canada a publié des chiffres assez effrayants en juillet. Donc, pour mettre en contexte, le quart des victimes de meurtres au Canada entre 2015 et 2020 étaient autochtones. En Saskatchewan, le taux d'homicide par 100 000 habitants de 17,57 chez les personnes autochtones est 13 fois plus que le taux observé chez les non-autochtones, qui lui est dans la moyenne nationale avec un taux de 1,38, donc comparé 17,57 chez les autochtones, 1,38 chez les non-autochtones. Sur 244 meurtres en Saskatchewan entre 2015 et 2020, 173 ou 70% sont des victimes autochtones. Mm-hmm. Si on prend les trois provinces des prairies pour la même période, 545 victimes autochtones sur l'ensemble des 1044 homicides, donc plus de la moitié. Colombie-Britannique, Ontario et Québec font un peu moins pire, mais ont aussi des taux d'homicide beaucoup plus élevés chez les autochtones que les non-autochtones. Des statistiques qui sont un peu mieux dans les provinces atlantiques, mais qui sont pas non plus très reluisantes. Il y a juste l'île du Prince-Édouard qui peut se targuer de n'avoir eu aucune personne autochtone assassinée entre 2015 et 2020, mais bon, c'est une toute petite province, on s'entend. Mathieu, on reste au Canada, au Québec, pour des enjeux d'immigration. De quoi tu nous parles exactement?
Ben, je vais faire certains suivis de sujets dont on a parlé dans les dernières semaines, derniers mois. Je voulais revenir sur la manifestation du 17 juillet qu'il y a eu à Montréal et ailleurs au Canada, entre autres à Montréal par Solidarité sans frontières, mm-hmm. qui finalement a eu une couverture médiatique quand même intéressante, une bonne participation. J'invite les gens à aller voir la page Facebook ou le site de SSF pour voir les photos, voir le contenu, parce que c'est une campagne qui existe depuis des années, des décennies, mais là, avec l'histoire du programme peut-être à venir à l'automne, ça va être beaucoup dans l'actualité dès la fin août, début septembre, donc j'encourage les gens à suivre ça de près ou de loin. Ben, sinon, une autre petite mauvaise nouvelle, mais on s'y attendait, le gouvernement Legault souhaite infirmer le récent jugement à la Cour supérieure qui rétablissait le droit des demandeurs d'asile d'accéder aux garderies subventionnées. Et le gouvernement Legault dit qu'il y a eu une erreur de droit, c'est pour ça qu'ils vont en appel. Une telle procédure suspend automatiquement la décision rendue par le juge au mois de mai.
C'est applicable tout de suite.
Le temps de l'appel, c'est des décisions administratives. Fait que empêchant de nouveau les demandeurs d'asile d'avoir accès au tarif journalier de 8,70 $ en CPE par jour. Donc à suivre là, pour en quelque part après les élections, là, à l'automne, l'hiver, là, pour un appel éventuel devant la Cour d'appel.
Surtout immigrantes qui vont devoir quitter l'emploi qu'ils occupent actuellement.
Ou faire garder par la voisine ou ce genre de trucs-là. Sinon, une nouvelle quand même pas pire pour un cas. Installé au Québec depuis plusieurs années, Firas Bousgarou vit la fin d'un long calvaire administratif. On en avait parlé à l'émission, Marie-Ève, entre autres, il me semble. Ce dernier vient d'obtenir, après un long combat politico-judiciaire, une résidence permanente accordée par le fédéral pour des raisons humanitaires. Rappel des faits, en 2014, il avait décroché sa résidence permanente. Il avait rapidement dû retourner en Tunisie auprès de son épouse souffrante et de sa fille malade. Il est resté jusqu'en 2018. Quand il est revenu, il a comme perdu sa résidence permanente parce qu'il avait été parti trop longtemps. Il y a eu un avis d'expulsion. Il était à l'aéroport. Puis, la dernière minute, il y a eu le ministre Sean Fraser qui a octroyé un permis de séjour temporaire. Faut dire qu'il y avait eu beaucoup de battages dans les médias par des politiciens et des groupes de support. Finalement, c'est en coulisses que Firas Bousgarou vient d'obtenir coup sur coup deux nouvelles victoires. Okay. À la fin juillet, un juge de la Cour fédérale a d'abord forcé Immigration Canada à revoir son dossier en déplorant des négligences de la part de l'agent au dossier. Et ensuite, Immigration Canada, il n'a pas eu à se saisir de cette demande, puisqu'ils ont décidé le 4 août d'y octroyer la résidence permanente pour raisons humanitaires. Mais je pense que suite à la pression, évidemment, puis tout ce qui se passait.
Ouais, sans la pression, il ne serait pas passé grand-chose.
Exactement. D'ailleurs, un de ses supporters dit, sans dire long sur le nombre de dossiers qui n'ont pas bénéficié de la même visibilité et qui ont été refusés de manière déraisonnable et incompétente.
Mais non seulement ça, mais en plus, moi, je trouve que c'est aussi le caractère, tu sais, dans la dernière minute que la décision, imaginez, tu sais, tout le stress que ces personnes-là vivent jusqu'à la dernière minute, c'est comme, me semble, tu pouvais pas prendre cette décision-là avant. T'sais.
Puis d'ailleurs, il est revenu en 2018, suite à avoir vu sa fille et sa femme qui était malade, mais là, il les a pas vus depuis 2018 parce qu'il était ressorti, il était évidemment, il peut pas revenir. Fait que...
Il devait même pas y croire à l'aéroport que c'était révoqué, en tout cas.
Ouais, mais sur l'aéroport, ça arrive les dernières minutes, quand c'est des cas, là, vraiment médiatisés en général. Sinon, ben, autre nouvelle, ben, un autre dossier intéressant quand même, le conseil municipal de Vancouver a voté à l'unanimité pour exhorter la province de la Colombie-Britannique à mettre fin au contrat qui autorise le fédéral à y détenir des migrants dans les prisons provinciales, par le biais de la superbe agence du service frontalier du Canada. Okay. C'est la première fois qu'une ville canadienne adopte une telle résolution dans ce dossier. Au cours des 5 dernières années, strictement pour des raisons relatives à leur dossier, l'agence a incarcéré des centaines de personnes dans les prisons provinciales de la Colombie-Britannique, y compris dans des établissements à sécurité maximale. Elles sont le plus souvent détenues parce qu'un agent de l'agence estime qu'elles ne se présenteront pas au rendez-vous à venir pour les démarches. En détention, elles sont régulièrement menottées, enchaînées, détenues avec peu ou pas de contact avec le monde extérieur. Et les migrants détenus peuvent être emprisonnés des mois ou des années durant sans savoir exactement quand ça va finir. Il faut dire que c'est en lien avec le lancement de la campagne Bienvenue au Canada qui a été lancée en 2021 par Human Rights Watch et Amnesty International. Ben, c'est ironique.
Ouais, c'est
Donc, les autorités locales de la Colombie-Britannique, les autorités provinciales, ont entrepris de réexaminer le contrat de détention avec l'agence. C'est ce qu'ils ont dit.
Suite au vote de la ville de Vancouver?
Suite à la campagne et ensuite au vote qu'il y a eu il y a quelques semaines. Mais il était supposé avoir une espèce de résultat ou de décision ce mois-ci, c'est-à-dire au mois de juillet, puis il n'y a pas eu de décision encore par le provincial en Colombie-Britannique. Fait que c'est à suivre s'ils vont... Moi, je pense pas qu'ils vont renier les contrats comme ça, là. Ça, c'est clair, c'est payant.
Ça fera un précédent pour d'autres provinces, par
exactement.
Contre,
ouais. Exactement. Fait que pas nouveau pour l'instant. Et la campagne, évidemment, Bienvenue au Canada, là, hashtag Bienvenue au Canada, est active ici au Québec, en Ontario, dans les autres provinces, où, parce que dans chaque province, il y a des migrants détenus en dehors des centres de prévention de l'immigrant, là, les fameux centres officiels, dans les prisons provinciales de toutes sortes, avec toutes sortes de monde.
Mais la campagne de Human Rights Watch puis d'Amnesty concerne les prisons fédérales, par exemple, non?
Non, les prisons provinciales. D'arrêter qu'il y ait des contrats. Arrêter que l'agence fasse des contrats avec les provinces pour détenir, comme ici au Québec, à Rivière-des-Prairies, par exemple, ou à Bordeaux, ou n'importe où, quand les centres d'immigration débordent, entre guillemets. Là.
Ah, ouais.
Mais là, ils en construisent des nouvelles, fait que ça devrait être correct, là.
Ça va être même luxueux, à ce qu'on m'a dit.
Sinon, ben, dernier suivi, je voulais vous faire les Ukrainiens, quand même, il faut en parler un peu. Vous rappelez l'initiative annoncée en avril par le fédéral pour fournir à des Ukrainiens fuyant la guerre des vols gratuits vers le Canada?
Ah oui, ça s'était bien passé, ça.
Non, mais il n'a jusqu'à présent permis qu'à 800 personnes de s'inscrire pour en bénéficier, soit une mince fraction des 10 000 billets promis sur un an. Une première tranche d'inscription pour ces vols payés au moyen de dons en points Aéroplan a été lancée en juin pour 500 Ukrainiens.
Ce n'est pas des blagues.
Non. Depuis, l'organisation chargée de la logistique du programme Miles for Migrants n'a ouvert l'inscription qu'à 300 personnes supplémentaires et seulement cette semaine suite à ce que les médias posaient des questions. Miles for Migrants a indiqué qu'il prévoit rendre disponible 300 nouveaux billets chaque deux semaines et qu'il compte garder cette cadence à court terme. Appelé à indiquer à quelle date il a l'intention d'ouvrir les inscriptions à un plus grand nombre de personnes, l'organisme n'a pas répondu aux médias. Au juge de l'opposition à Ottawa, il déclare que le gouvernement a échoué à venir en aide aux Ukrainiens avec ce partenariat avec Air Canada, Miles for Migrants et d'autres organismes caritatifs tels que la Fondation Shapiro. On lui reproche à Ottawa aussi de se vanter de cette initiative qu'il a annoncée en grande pompe tout en n'assurant aucun rôle de gestion dans le programme pour en assurer l'efficacité parce qu'il délègue ça à des partenaires puis après ça...
C'est comme un genre de PPP, tu sais.
Oui, ben même de sous-traitance carrément.
Ouais.
Puis on parle quand même de milliers de personnes qui sont supposées venir au Canada. Il faut après s'en occuper, évidemment. En tout cas, c'est un peu...
Les promesses, c'est bon.
Mais surtout les trucs d'image.
Ben, écoute, peut-être que la prochaine initiative, ça va être un bingo pour faire tirer des paires de billets.
Marie-Ève, des bonnes idées.
Fait qu'en terminant, vous dire que seuls les ressortissants ukrainiens qui ont déjà en main un permis de séjour au Canada, qui s'appelle l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine, l'AVUQ, sont admissibles à ce programme. L'AVUQ offre une résidence temporaire de 3 ans au Canada à des Ukrainiens et aux membres de leur famille, si on le savait déjà. Selon les plus récentes données publiées par le fédéral, 276 000 personnes ont reçu ce permis de séjour actuellement. Et aussi, un peu plus de 67 600 Ukrainiens sont arrivés au Canada par différents moyens, depuis janvier janvier dernier. Et il y a eu aussi, il faut compter, les 900 ressortissants qui ont pu monter à bord de 3 vols nullisés par le fédéral. Ça, c'était même pas les aéroplanes, c'était les fameux vols qu'il y a eu, un à Halifax, un à Montréal, puis un à Winnipeg, je pense.
D'accord.
Mais ça, c'était une fois. Le reste, c'est ben les aéroplans. Air Canada, j'imagine que peut-être qu'ils ont décidé de mettre l'argent ailleurs que dans des vols gratuits pour des Ukrainiens.
Ben écoutons, merci Mathieu. Et écoute, bienvenue au Canada.
Bienvenue au Canada de toutes les façons que tu veux. Tu peux arriver par drone aussi si tu veux avec Frontex. Là,
ouais. Ou sur ta carte flottante Air Miles. Bon, ben c'est l'heure de l'agenda. L'émission tire à sa fin, donc à vos papiers et crayons. On a 3 suggestions à l'agenda cette semaine. Premièrement, ben on a parlé tantôt, Solidarité sans frontières a appelé, on a parlé tout tantôt, en tout cas, on parlait des prisons, mais SSF a appelé un mois d'action contre les détentions, donc tout le long du mois d'août, des ateliers, de la présence médiatique, des événements publics. On va cibler particulièrement, mais pas que, la nouvelle prison pour migrants et migrantes de Laval, dont l'avancement des travaux est plutôt gardé secret. Moi, je pensais que c'était plus ou moins terminé. En tout cas, gardé secret pour l'instant par l'Agence des services frontaliers.
Oui, c'est terminé, mais c'est juste c'est l'ouverture officielle. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va en rentrer en fonction. C'est ça, la...
OK, ce et puis c'est l'information
qu'on n'est pas capable d'avoir
actuellement. OK, ouais. Ben, merci pour le suivi, Marie-Ève. Autre thématique qui sera abordée dans ce mois contre les détentions, surveillance des migrants, pratiques racistes, mauvais traitements. Dimanche 28 août, il y aura un rassemblement contre justement la nouvelle prison de Laval, lieu et heure à déterminer. On consulte solidaritésansfrontières.org ou on écrit à solidaritésansfrontières@gmail.com pour en savoir plus sur le mois d'action contre les détentions. Deuxième suggestion d'agenda, une exposition qui s'intitule « Chercher le printemps, parcours croisé de femmes immigrantes dans Centre-Sud ». C'est à l'Écomusée du Fiermonde sur Atadegun, coin Ontario, jusqu'au 4 septembre. La documentariste Laurence Dompierre Major présente les parcours migratoires d'une vingtaine de femmes de divers horizons en texte et en photo. Donc, l'exposition, je rappelle le nom, « Chercher le printemps, parcours croisé de femmes immigrantes dans Centre-Sud » est réalisée avec le Carrefour de ressources en interculturel du Centre-Sud, le CRIC. C'est dans le cadre de la 4e année du projet « Raconte-moi Centre-Sud » du mouvement Courte Pointe. Et pour les infos, on va sur écomusée.qc.ca. Il y en a ici qui ont vu l'expo? Non?
Non, non.
OK, on essaiera de vous en parler lors d'une prochaine émission.
C'est jusqu'à quand déjà?
4 septembre.
OK.
Dernière suggestion, j'ai eu le temps pour quelques films. Me fait des gros pouces en l'air. C'est Cinéma sous les étoiles actuellement. On a choisi pour vous 3 documentaires en lien avec les thématiques qu'on aborde ici aux Apatrides, mais n'hésitez pas à consulter la programmation complète. Il y a plein de films intéressants. Premier film, The Gig Is Up, sur le travail à la tâche en ligne ou la gig economy. Tout ce qui concerne l'aspect très terrain du commerce en ligne, donc les chauffeurs Uber, les livreurs Foodorama ou Amazon, les gens qui travaillent en entrepôt et qui sont sur la route pour les grosses multinationales, donc des emplois précaires, dangereux, principalement occupés par des personnes migrantes ou immigrantes. The Gig Is Up, c'est une coproduction France-Canada, une réalisation de Shannon Walsh et c'est présenté demain, vendredi 12 août, au Parc Beaubien. Le parc Beaubien d'Outremont et non celui de Rosemont. Et c'est présenté ensuite aussi le 24 août au presbytère de la grosse église de Verdun au coin Wellington et de l'église. Deuxième film, Sous un même soleil, un documentaire québécois réalisé par François Jacob, qui se rend dans la région montagneuse de Nagorno-Karabakh, oui je prononce bien, région coincée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est toujours violemment disputé par différents partis malgré un cessez-le-feu adopté en 1994. Donc, le réalisateur rencontre les habitants de cette région, dont on n'entend à peu près jamais parler. Ça s'appelle « Sous un même soleil ». C'est projeté le 15 août au Parc du Pélican dans Rosemont. Troisième film, « Vivre en grand », c'est la Française Flore Vasseur qui dresse le portrait de Melati Vision, une activiste environnementale indonésienne de 18 ans. On la suit à la rencontre d'autres militants sociaux et environnementaux un peu partout à travers le monde. « Vivre en grand », ça sera présenté le 19 août au Parc Beaubien, toujours celui d'Outremont, et aussi au Parc Beaudet, près du sujet de Saint-Laurent, le 2 septembre. L'émission est presque finie. Fait qu'en attendant, vous pouvez aller voir la programmation complète. C'est cinémasousleséthoiles.org. Et on vous retrouve dans un mini court, petite pause musicale pour la conclusion des Apatrides anonymes. (Musique) avant de conclure officiellement, peut-être une nouvelle capsule éphémère qu'on va appeler nos grands champions du monde, nom et concept de capsule à travailler. Là, je pourrais vous parler de la police de Gatineau qui est allée brutaliser une diplomate sénégalaise chez elle et saccager sa maison, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Donc, on a deux champions championnes. Donc, première championne, lors du procès du néo-nazi québécois Gabriel Soyer-Chaput, son avocate Hélène Poussard a dit plein de niaiseries, dont le fait qu'il fallait dissocier le nazisme de l'Holocauste, que le génocide faisait pas nécessairement partie du plan initial du national-socialisme, que les chambres à gaz, c'était pour sauver de l'argent, et que le chiffre de 6 millions de victimes de la Shoah, c'était discutable. Donc, je vous rappelle qu'on n'est pas dans une ligne ouverte de fin de soirée ou à la cour en direct, mais dans une vraie salle de tribunal. Alors, Maître Poussard, on lui dit « Bravo », on lui dit « Tailleul », qu'est-ce qu'on lui dit?
On lui dit « Oui, t'as-tu pogné ton barreau dans une boîte de Cracker Jack. »
Ah, ben oui, ça se peut.
Non, on dit juste que t'es une grosse conne, puis on espère ne pas te revoir dans nos faces.
Pas de grossophobie ici.
Non, pas de...
De conophobie.
Oui, de conophobie. Ouais.
Non, ça, on n'est pas... Deuxième champion, on s'en va en Allemagne, pourquoi pas, on reste un petit peu dans les mêmes sillons. Il s'appelle Franco Albrecht, c'est un ancien lieutenant de l'armée, il a des allégeances néo-nazies. Il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir planifié l'assassinat de plein de personnalités en Allemagne. Le côté insolite de l'affaire, c'est que pour soi-disant tester le système d'accueil des réfugiés en Allemagne, il avait réussi à obtenir le statut de réfugié en se faisant passer pour un vendeur de fruits syriens de Damas sans papier, qui aurait marché des milliers de kilomètres jusqu'à la frontière allemande. Donc tout ça est un peu rocambolesque et abracadabrant, un peu compliqué aussi. Donc allez lire l'article d'Info Migrant dont le titre est « Un ex-soldat néo-nazi se faisant passer pour un réfugié syrien condamné ». Donc voilà notre duo de champions qu'on pourrait surnommer l'épaisse et le nazi et en faire une belle comédie musicale.
Hé, hey, pas d'épaisse rophobie.
Ah ben oui, l'épaisseophobie. Donc Mathieu, Marie-Ève, merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment, oui?
Oui.
Avec un très bon animateur, Simon.
Ben oui, c'est ce qui fait en sorte que c'était un bon moment. J'imagine.
Oui, tout à fait.
J'en ai passé un très bon.
La sauce a pris.
Donc, c'est quand la prochaine émission des Apatrides? Comme je disais en intro, l'été, on est un petit peu moins régulier. Le 8 septembre, donc c'est un rendez-vous.
Dans 4 semaines.
C'est un rendez-vous pour tout le monde. On vous laisse nos coordonnées, apatridesanonymes.info. C'est notre site web, apatridesanonymes@resist.ca, pour nous envoyer un courriel. On a une page FB, ainsi qu'une page, évidemment, sur choc.ca, où tous nos balados sont en rattrapage. Et où on est normalement tous les deux jeudis live à 18h30. Et on est aussi sur les ondes 107.9 FM de Radio Victoria. Bonjour d'ailleurs à tout le monde en Colombie-Britannique. On se laisse en musique avec Balam, B-A-L-L-A-M, la pièce Revuelta. C'est l'album sur l'album Renos de Tambor, qui est au palmarès de Choc en deuxième position du palmarès Globe. L'album est sorti en mai 2022. C'est le premier album complet de ce collectif montréalais qui se qualifie lui-même de house psycho-organique. On va écouter donc Revuelta de Balam. Marie-Ève Mathieu, merci beaucoup. À bientôt.
Oui, à bientôt. Puis dans 4 semaines, on va être juste Marie-Ève et moi pour faire l'émission. On va te souhaiter des beaux voyages et puis on espère retrouver les auditeurs et auditrices en grande forme pour la rentrée.
Et on sera en forme, nous aussi. Donc, merci à tout le monde qui nous écoute. C'était les Apatrides anonymes du 11 août 2022 sur choc.ca. On écoute Balam. Thank you.
Jésus.